Bonsoir à toutes et à tous. En arrivant mercredi soir, j'ai écouté le message de Samuel et je me suis dit, ça sonne comme chez moi là, un tout petit peu dans le sud. Bon, je ne suis pas du sud de la France, mais quand même il a un petit accent, il faut dire. Et hier soir, j'ai écouté le message et j'ai dit, waouh, ça sonne comme chez moi un tout petit peu, un accent américain. Et ce soir, je suis désolé, vous allez être obligé de supporter un autre accent. Voilà ma blague pour ce soir, Didier. On parlait à la table par rapport aux blagues. Les Américains commencent des messages très souvent avec des blagues. Mais passons aux choses plus sérieuses. Nous avons vu mercredi soir un message exceptionnel. Nous avons vu un homme de Dieu ouvrir la parole de Dieu et qui nous a démontré de la parole des choses magnifiques sur la personne de Christ, la personne du Saint-Esprit. Qui est cette troisième personne de la Trinité? C'est celui qui vient, qui nous accompagne, c'est notre consolateur, c'est lui qui nous encourage, nous fortifie, nous enseigne, et c'est quelque chose de merveilleux. Et mercredi soir, j'ai écouté le message, j'ai dit, mais qu'est-ce que Tim va dire demain soir? Parce que tous les ministères ont été mentionnés. Et après, hier soir, Tim ouvre la parole encore et on voit tous les ministères du Saint-Esprit, et nous voyons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis. Nous sommes vraiment bénis dans le fait que nous avons Dieu lui-même qui habite en nous en permanence. Quelle chose merveilleuse que Dieu a choisi d'habiter dans des temples de chair. Nous, moi. Dieu est en moi et il me guide, il me dirige, et c'est quelque chose de magnifique. Et mercredi soir, nous avons vu la personne de la Trinité. Hier soir, nous avons vu les ministères du Saint-Esprit. Et ce soir, nous arrivons au sujet de comment vivre la vie selon le Saint-Esprit. Comment mettre en pratique ces vérités que nous avons vues jusque-là. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, nous retrouvons énormément de passages qui parlent de la vie avec le Saint-Esprit, être soumis au Saint-Esprit, de le suivre, de l'écouter, de ne pas éteindre, de ne pas l'attrister, de ne pas mentir. Mais il y a deux passages ce soir que je veux regarder. Et le premier passage se retrouve dans Galates chapitre 5. Et nous voyons ici un court résumé de ce que nous allons regarder dans l'autre passage en plus de détails. Romains chapitre 8 sera le deuxième passage, mais pour débuter le message, regardons Galates chapitre 5 et nous allons lire les versets 16, 17 et 18. Donc Galates chapitre 5 verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Prions ensemble. Seigneur, je prie que Tu prépares notre cœur pour ce que nous allons entendre de ta part ce soir, Seigneur. Encore comme David a prié ce soir, Seigneur, remplis ma bouche de tes paroles, Seigneur. Seigneur, aide-moi à transmettre le message que tu as mis sur mon cœur. Et Seigneur, un message, je prie, qui va nous encourager de vivre notre vie selon le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous. Nous avons tellement besoin de vivre selon l'Esprit. De marcher selon l'Esprit, Seigneur. Merci pour tout ce que tu accomplis. Au nom de Jésus. Amen. Ici, dans Galates chapitre 5, je viens de vous dire que ces trois versets sont vraiment un résumé de ce que nous allons voir en Romains chapitre 8. Et je veux juste relire le verset 16, la partie où l'apôtre Paul dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Quand je lis ce verset, je regarde ce verset, je médite sur ce verset, et ce qui vient à mon esprit quand je regarde ce verset, c'est que si j'accomplis ce que Paul encourage l'église de Galatie à faire, c'est de marcher selon l'esprit, je vais vivre dans la victoire. Je vais vivre dans la victoire spirituelle, pas forcément la victoire physique ou sur cette terre, mais avoir une vie spirituelle victorieuse. Et je crois que c'est un objectif que nous avons tous, de vivre une victoire dans le domaine spirituel. Je ne veux pas avancer dans ma vie et vivre des échecs après échecs après échecs, même si c'est la réalité parfois, mais je ne veux pas faire ça. Et ce que je vois ici dans ce passage, c'est si je marche selon l'esprit, je vais vivre une vie de victoire avec le Seigneur. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est ce que je veux. Même si parfois, je n'atteins pas ce but. Je rate la cible, mais c'est ce que je veux. Vivre une vie de victoire. Quand je grandissais, je jouais beaucoup au sport. Et au lycée, je jouais au basket, au football américain et au baseball. J'ai eu un accident et j'ai dû m'arrêter, j'ai fracturé mon dos. Mais pendant plusieurs années, je pratiquais énormément de sport. Et avec l'équipe là au lycée où je jouais dans les équipes, il y avait ces trois saisons, le football américain, le basket et le baseball. Et le football américain, c'était ce qu'on démarrait l'année scolaire avec. Mais on était dans une école où on était très grand, très fin. Bon, c'est plus le cas maintenant, mais très fin. On n'arrivait pas à gagner des matchs de football américain. C'était pas notre truc. Mais on passait cette saison et on mettait ça derrière nous et enfin arrivait la saison de basket. On était grand. On était fin. Et on était vite. C'était le passé. Et on jouait et on s'entraînait, on travaillait et on gagnait des matchs. Et c'était quelque chose de magnifique quand on vivait. Mais vous savez ce que j'ai appris à travers ça? Parfois, il faut passer par ces moments difficiles où on se présentait sur le terrain de football américain et on disait, mais allez-y, prenez le ballon, passez devant nous parce que on va pas gagner et on n'a pas besoin d'être plaqué tout le temps. Prenez le ballon. Mais quand c'était le moment de basket, c'était eux qui disaient, prenez le ballon. Pas de problème. On vivait des moments de victoire. Ça m'a marqué. Si on travaille et si on s'applique, on peut gagner. Et la vie spirituelle, pour avoir la victoire dans la vie spirituelle, on peut avoir la victoire. Très souvent, j'entends des gens de l'église, de mon église et des autres églises, mais j'arrive pas à surmonter cette épreuve. J'arrive pas à me débarrasser de ce péché. Je n'arrive pas à... Et je regarde et je dis, mais c'est vrai, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Mais avec l'aide de l'Esprit, avec l'aide de notre Seigneur, nous pouvons avoir la victoire. Et donc, quand je regarde ce verset dans Galates chapitre 5, verset 16, je vois une vie de victoire. Et c'est possible si je marche selon l'Esprit. Mais comment vivre selon l'Esprit? Comment accomplir cela pour avoir la victoire? Je ne veux pas vivre ces défaites. Je ne veux pas vivre ces échecs. L'apôtre Paul donne beaucoup plus de détails. Comment vivre selon l'Esprit dans Romains chapitre 8. Pour moi, je crois que Romains chapitre 8 est le passage clé sur la vie selon l'Esprit. Moi, j'ai une Bible Ésaïe 55, et je regarde le passage dans Romains chapitre 8, et je vois que l'esprit revient très souvent. Parfois c'est un majuscule, parfois c'est un minuscule. Mais je vais vous dire ceci, je ne sais pas quelle Bible vous avez, mais ça devrait être E majuscule partout, d'accord? On parle de l'esprit dans ce passage. C'est d'abord la première chose qu'il faut comprendre. Mais dans ce passage, nous voyons que Dieu veut que nous menions une vie de victoire spirituelle. Et pour accomplir cela, l'apôtre Paul nous donne plusieurs éléments qu'il faut avoir dans notre vie chrétienne pour vivre cette victoire, pour vivre selon l'Esprit. Et la première chose que je vois, c'était déjà mentionné en Galates chapitre 5, c'est dans le verset 4 de Romains chapitre 8. La Bible dit, « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Qu'est-ce qui est cette première clé que l'apôtre Paul donne à l'église de Rome pour vivre dans la victoire, pour vivre selon l'Esprit? C'est il faut marcher selon l'Esprit. Et vivre selon l'Esprit, marcher selon l'Esprit, n'est-ce pas la même chose? Presque. La vie comprend tout. Mais marcher, c'est le fait... C'est la façon que nous nous comportons. C'est notre manière de vivre, pratiquement parlant, avec l'Esprit. De marcher avec lui. De marcher main dans la main avec l'Esprit. De l'écouter, on verra cela. De marcher avec lui. J'ai une fille à la maison qui a 20 mois maintenant. Elle vient de commencer à marcher. Il y a 8 mois de cela, elle a commencé à marcher. Et vous savez, quand elle apprenait à comment marcher, elle voulait toujours tenir la main de maman ou papa. Maintenant, elle a 20, 21 mois. Bon, elle veut plus tenir la main de maman et papa. Et même quand on sort en ville, elle veut être assez indépendante. Elle veut marcher toute seule. Et comme Tim a soulevé hier soir, ça n'est pas une bonne idée pour les chrétiens. Quand nous marchons avec l'Esprit, on devrait tendre la main vers lui et il va prendre notre main et on va marcher avec lui. On ne devrait pas réagir de la façon que nous faisons parfois et dire « Non, je peux me débrouiller ici, j'ai assez de maturité chrétienne, je saurai comment faire face à cette épreuve. » Non, on devrait toujours tendre la main avec lui et marcher. Pas à pas, main dans la main avec lui. Si on marche avec quelqu'un, ça veut dire qu'on n'est pas devant lui. On n'est pas derrière lui, on marche côte à côte. Mélisse et moi, ça fait presque 15 ans qu'on est mariés. Après 15 ans de mariage, on oublie ce qu'on faisait quand on sortait ensemble, dating. Quand on sortait ensemble, qu'on essayait de gagner le cœur de sa future épouse, on faisait des choses, on discutait, on tenait la main, on parlait, on passait du temps, on se promenait, on marchait ensemble pour parler. Mais parfois, après 15 ans, on oublie, on sort pour faire une petite promenade et c'est moi qui me retrouve devant et Mélisse est derrière parce qu'elle est en train de regarder quelque chose de magnifique, mais je loupe tout. On peut faire exactement la même chose avec l'Esprit Saint. Il est là, il essaye de nous montrer quelque chose de magnifique de la parole de Dieu. Et on pense qu'on est en train de marcher avec lui. Et on pense qu'on est en train de passer du temps avec lui. Et en fait, on est à 100 km en avant ou en arrière. Et on loupe tout ce qu'il veut nous montrer. On ne marche pas avec lui. Donc, en Romains chapitre 8, verset 4, nous voyons... Ce premier élément qu'il faut avoir dans notre vie pour vivre selon l'Esprit Saint, c'est de marcher avec lui, main dans la main, accompagner le Saint-Esprit et le suivre dans les directions qu'il nous montre à prendre. Mais nous voyons aussi dans le prochain verset un détail très intéressant et très difficile. Regardez Romains chapitre 8, verset 5. « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Deuxième élément qu'il faut avoir en place dans notre vie pour vivre selon l'esprit, c'est qu'il faut affectionner les choses de l'Esprit Saint. Il fallait que je regarde un tout petit peu dans les dictionnaires affectionne, de l'affection, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sorti les dictionnaires grecs, mes étudiants de grec, c'est pourquoi c'est utile de pouvoir repérer dans ces dictionnaires grecs ce que ça veut dire dans la langue originale. En fait, ça veut dire exactement ça, affectionner. Hein? Il n'y a pas de secret. On chérit quelque chose. On a une affection pour quelque chose. On aime cela. Est-ce que l'apôtre Paul dit ici à l'église de Rome, il faut affectionner, il faut chérir, il faut aimer les choses de l'esprit et non pas les choses de cette chair. Et ici, je vois quelque chose qui est très compliqué pour nous. Si je veux vivre cette vie de victoire, il ne faut pas que la chair prenne le dessus et ce qui est la chose la plus importante pour moi dans ma vie. Ce ne devrait pas quelque chose qui devrait attirer mon attention. Il y a cette idée aussi dans ce mot affectionné que c'est, on passe notre temps à méditer sur cela et ça attire notre attention. Parce que aux yeux, à nos yeux, c'est tellement magnifique. On veut faire cela. L'apôtre Paul dit ici dans ce verset, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. On s'occupe des choses de la chair. On obéit aux pulsions de la chair. On vit pour satisfaire les désirs de notre nature corrompue. On entretient des besoins de notre corps qui vont dans quelques années retourner à la poussière. Je regarde ceci, je regarde à ma vie et je dis, je cède aux tentations de ma chair. Trop souvent. Même on dit, oh, c'est pas grave, c'est des petites choses. Mais ces petites choses nous empêchent de marcher main dans la main avec notre Sauveur. J'aime bien les gadgets. J'aime bien quand Apple sort le nouveau iPhone. J'attends avec impatience le Apple Watch, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai jamais la possibilité d'acheter, mais c'est chouette, toutes ces choses-là. La technologie, c'est magnifique, mais ces choses de ce monde, est-ce que ça m'attire plus que les choses de Dieu et les choses de l'Esprit? Est-ce que je veux passer plus de temps à comprendre ce qui se passe ici dans ce monde et les choses de ce monde et la chair, ou est-ce que je veux passer plus de temps avec cette magnifique parole? Mélissa est parfois très frustrée avec moi parce que je rentre avec des nouveaux gadgets et il y a toujours des fils, des câbles qui viennent avec. Et maintenant, dans mon placard, j'ai un carton rempli de câbles et de fils, et je ne sais pas à quoi ça sert. Nous pouvons remplir notre vie avec des choses qui ne servent à rien. Et pourquoi ne remplissons-nous pas notre vie les choses selon l'Esprit, qui servent pour toute l'éternité. Pourquoi n'affectionnons-nous pas les choses de l'Esprit? Ceux qui vivent selon l'Esprit s'élèvent au-dessus de la chair et du sang et vivent pour ce qui est éternel. Ils s'occupent de la parole de Dieu, de la prière, de l'adoration et du service chrétien. Est-ce que j'affectionne plus la prière, le service que je peux rendre à mon Sauveur? Est-ce que je désire accomplir des bonnes œuvres, des œuvres bonnes pour mon Sauveur et mon Seigneur? Ou est-ce que les choses de ce monde m'attirent plus? Affectionnez les choses de l'Esprit Saint. Un élément très important si nous voulons vivre selon l'Esprit. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué, mais l'apôtre Paul entre dans les petits détails et nous donne tous les éléments nécessaires. Et il continue et nous allons voir ici dans le verset 13 un autre aspect de la vie chrétienne qu'il faut avoir ou à mettre en place pour vivre selon l'Esprit. Regardez en verset 13, nous voyons une autre clé. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ici, cette troisième clé qu'il faut mettre en place pour la vie chrétienne, c'est qu'il faut faire mourir les actions du corps. Le corps, encore, c'est une mauvaise chose. C'est la chair, c'est cette ancienne nature qui nous entraîne à faire des choses qui n'honorent pas Dieu, qui nous entraîne dans le péché, qui nous entraîne loin du Seigneur. Et vous savez, il dit, ceux qui vivent selon la chair vont mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ce soir, il faut que je me pose cette question. Est-ce que je fais mourir les actions du corps? Et comment accomplir cela? Comment faire mourir les actions du corps? Vous savez, la façon la plus facile de faire mourir les actions du corps, le péché, hein, pour dire tout simplement, c'est dire non. Dire non. Je refuse. Et vous savez ce qui est magnifique? Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je peux dire non. Je ne suis plus obligé de dire oui. Mais aussi, il faut comprendre que le fait de simplement dire non, parfois, ne suffit pas. Vous avez probablement dit, mais David, pourquoi tu ne continues pas dans le passage dans Galates chapitre 5? Il y a tellement de choses magnifiques dans ce passage par rapport à vivre selon l'Esprit. Vous savez, dans Galates chapitre 5, nous avons les œuvres de la chair et le fruit de l'Esprit, n'est-ce pas? Et vous savez, la meilleure façon pour faire mourir les actions du corps, c'est de dire non. Je ne fais plus les œuvres de la chair que nous retrouvons dans verset 19, 20, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Comment dire non à ces choses? Comment dire non et refuser les impulsions de la chair? Il faut pratiquer et faire et porter du fruit spirituel. Ce soir, nous avons mangé ensemble, ou peut-être pas nous tous, mais la grande majorité. Et on peut prendre un gobelet, et dire à quelqu'un, enlève tout l'air qui se retrouve dans ce gobelet. Et on peut essayer de créer un vide dans ce gobelet, on peut le renfermer et utiliser un aspirateur pour enlever tout l'air. Et on va passer énormément de temps pour essayer d'enlever tout l'air parce que l'air c'est mauvais et c'est pas une bonne chose. Mais vous savez, la façon la plus facile pour enlever l'air de ce gobelet, si vous connaissez, comment ? À remplir d'une liquide. Et ça enlève l'air. Bon, je comprends que H2O, il y a quand même un peu d'oxygène, mais ça suit l'illustration, n'est-ce pas? Vous voulez dire non aux tentations? D'accord. Mais remplissez ce vide qui est créé quand on commence à dire non aux impulsions de la chair avec autre chose, avec les fruits de l'esprit. Un vide, ce n'est pas une bonne chose. Ça sera toujours rempli avec un autre élément. Et pour nous, les chrétiens, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de remplir ce vide quand on dit non aux tentations de la chair, c'est de remplir cela avec le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la foi. La loi n'est pas contre ces choses-là. Pardon, j'ai souligné, je n'arrive pas à lire. Vous voulez réussir à dire non, commencez à pratiquer ces choses, porter du fruit, remplir ce vide qui est dans notre âme. Faites mourir les actions du corps. Vous savez, chez moi, dans la cour derrière, il y a un prunier. Et chaque année, à cette saison, les feuilles tombent. Ça fait partie de la nature, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si vous avez jamais remarqué mais ce prunier derrière, dans la cour, quand les feuilles tombent, pas toutes les feuilles vont tomber. Et c'est plus ou moins la même chose. J'ai remarqué ça avec les chênes, les érables. Il y a quelques feuilles qui durent jusqu'au printemps. C'est impressionnant. Certaines feuilles refusent, ils sont obstinants. Obstinés, oui. Quel est le mot qu'on utilisait cet après-midi? Abstinent. Pour dire abstention pour les assemblées générales. Ces feuilles refusent de tomber. Mais vous savez, au printemps, quand la vie vient et la vie revient dans les branches, ces feuilles mortes, ces mauvaises choses qui refusaient de tomber, éventuellement, elles tombent. Parce que la vie arrive. Et la vie que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Et celui qui fait vivre, c'est l'Esprit Saint. Et à la fin de la saison, en juillet, août, on entre dans la cour et on prend des prunes et on les mange. Et on peut faire même de la confiture, des bonnes choses avec. Faire mourir les actions du corps, il faut se soumettre au Saint-Esprit. Il faut porter du fruit, en fait. C'est la seule façon de dire non. C'est de se mettre à l'action et commencer à porter du fruit pour le Saint, pour Jésus-Christ. Nous voyons alors, jusqu'à là, il faut marcher selon l'esprit, il faut affectionner les choses de l'esprit, il faut faire mourir les actions du corps. Mais en revenant à Romains chapitre 8, nous voyons aussi en verset 14, il faut être conduit par l'Esprit. Et on revient un tout petit peu avec l'idée de marcher selon l'Esprit que nous avons vu en verset 4, mais c'est un peu plus détaillé. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut être conduit par l'Esprit. Ici, c'est une référence, au moins ce que moi je vois ici, c'est accomplir la volonté de Dieu. Être conduit par l'Esprit, écouter sa voix et dire « Oui, ok, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Je vais aller dans ce sens. Je vais suivre les directions que tu me donnes dans ma vie. » Nous faisons je développe une série de messages chez nous à Saint-Gaudens à comprendre la volonté de Dieu pour ma vie. Et vous savez, j'ai passé 5 semaines à regarder la volonté générale. La volonté générale qui s'applique à chacun de nous en tant que enfant de Dieu. Vous savez, parfois on a du mal à comprendre. Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse avec ma vie. Seigneur, aide-moi, je ne comprends pas. Mais Seigneur, et la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que j'ai accompli exactement ce que le Seigneur me demande d'accomplir? Est-ce que je me laisse conduire par sa volonté générale qui s'applique à nous tous? Priez sans cesse. Réjouissez-vous toujours. Vous connaissez, n'est-ce pas, 1 Thessaloniciens 5. Est-ce que nous sommes conduits par l'Esprit? Le Saint-Esprit nous conduit dans les grandes lignes à travers sa parole. Et nous montre la volonté parfaite de Dieu qui s'applique à nous tous ici. Mais si nous accomplissons pas la volonté générale, il va jamais nous conduire dans les chemins spécifiques pour ma vie. Quand j'étais à la fac, vous savez, on avait des grands prédicateurs qui venaient et ils prêchaient des messages « Comment comprendre la volonté de Dieu ?» et c'était comme ça pour moi. Et Dieu m'a révélé la volonté de Dieu comme cela pour ma vie. C'était les grands prédicateurs qui faisaient ça. Je partais de ces moments plus frustrés, mais je ne comprenais pas. « Seigneur, pourquoi tu agissais comme ça dans leur vie? Moi, je suis là, je veux faire, mais je n'arrive pas à comprendre. Mais montre-moi, Seigneur, comme tu as fait avec ce prédicateur-là qui était de passage ce matin. Mais Seigneur, montre-moi, conduis dans ma vie. » Vous savez ce que j'ai appris? David, reviens en arrière. Commence à faire ce que tu sais déjà. Et après, on parlera de la suite. Ça m'a pris quelques années. Vaut mieux passer quelques années et ne pas se tromper. Les vrais chrétiens qui marchent avec le Seigneur, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ici, d'être conduit par l'Esprit, ça ne fait pas allusion à des cas spectaculaires où j'ai rêvé et Dieu m'a montré qu'il faut faire ça. Non, on parle de la vie normale, où l'Esprit Saint, et il vient et il nous souffle dans l'oreille. Et on a cette conviction et cette paix qui vient, c'est ça. Et de l'extérieur, quand on raconte ça aux autres, on dit, mais c'est assez subjectif. Mais dans notre cœur, on a compris, ce n'est pas subjectif. C'est assez objectif. Dieu m'a montré. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui accomplit cette œuvre. Il me conduit. Est-ce que le Seigneur ou l'Esprit est en train de vous montrer un autre chemin ce soir? Vous êtes en train de dire non. j'ai mon ministère, j'ai mon église, tout se passe bien. On n'est pas très nombreux, mais au moins, on a cette communion fraternelle que ça se passe bien à l'instant. Donc, non, ça va. Vous savez, parfois, quand l'Esprit vient pour nous conduire et nous montrer qu'il faut faire autre chose, ce n'est pas des moments où nous sommes prêts à écouter. Parfois. Mais vous savez quoi? Il vaut mieux écouter. Il vaut mieux dire, Seigneur, bon, tout se passe bien, ou rien ne va là, ou je ne sais pas, mais je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à accomplir ta volonté. Est-ce que le Seigneur est en train de travailler dans votre cœur? Vous refusez d'écouter et vous laissez conduire par l'Esprit Saint. Vous savez, quand je suis arrivé à la fac, le Seigneur commençait à travailler sur mon cœur. La voie que j'ai choisie quand je suis arrivé à la fac, c'était computer science ou l'informatique. J'ai dit, j'en ai eu assez du ministère. On a assez souffert dans ma famille, dans le ministère. C'est pas pour moi. Vous savez, les premières semaines, le Seigneur commençait à travailler. Je disais, oh non, c'est pas pour moi. Je suis déjà dans une faculté chrétienne. Ah, ça, c'est bon, c'est assez. La plupart de mes amis ne sont même pas allés dans une faculté chrétienne. Donc, ça va, je suis mieux que les restes, les autres, comme on a entendu hier soir. Hein, en regardant en arrière, je suis à 75%, les autres sont à 50%. C'est bon. Le Seigneur continue à travailler et travailler et travailler et travailler. J'ai dit, Seigneur, ok, d'accord. Je cède, je peux plus. J'accepte. Une chose a conduit à une autre, a conduit à une autre. Et vous savez ce que je me suis rendu compte? Au fur et à mesure que je disais oui au Seigneur, que je me laissais conduire au Seigneur, la paix venait. La joie venait. Et l'âme revivait. Ne voulez-vous pas ça? Nous voyons ici dans... le temps nous échappe. Nous voyons dans ce passage un autre élément qu'il faut avoir en place. Ici, dans ce passage, nous voyons en versets 15 à 17, et encore, ceci a été mentionné hier soir, mais regardez versets 15 à 17. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Ici, nous voyons que pour vivre selon l'Esprit, il faut d'abord faire partie de la famille de Dieu. Il faut être adopté dans la famille de Dieu. Mais aussi, il faut comprendre, comme nous avons entendu hier soir, c'est, il faut entretenir ces relations dans la famille. C'est cette communion. Mélisse et moi, on tourne dans les églises, deputation, la plupart vous connaissez ce terme, on tourne dans les églises pour chercher du soutien. Et un mercredi soir, on était au Tennessee. Loin de chez nous, je n'ai jamais vécu là de ma vie, au Tennessee, je connais pas l'endroit, et on était malade, on était horrible, et moi j'étais en jean et t-shirt, et pour là-bas aux États-Unis, un pasteur en jean et t-shirt, ça se fait pas. En tout cas, chez nous, avec les volets fermés et les portes fermées, d'accord, et dans le jardin quand on passe la tondeuse, mais au moins avec une colle, un polo. Mais Mélissa et moi, on était malades, fièvre horrible. Et on va à Walmart, si vous êtes jamais, c'est un peu comme un Leclerc, mais énorme. Avec tout ce que vous pouvez imaginer, c'est là. Et s'ils l'ont pas, ils peuvent le commander et c'est là dans 5 minutes. Et on est là, on prend, on achète des médicaments et on passe en caisse. Et vous imaginez pas, on entend. Vous êtes les Price? C'est qui ça, les Price? On se retourne et il y a une jeune femme derrière qui nous connaît parce qu'elle habite là. On l'a croisée à une autre faculté où j'ai eu l'occasion de porter la parole. Et elle nous a vus devant plusieurs milliers de personnes. Et là, on est en t-shirt et jeans et on est malade. Et elle est contente, elle sourit et ne regarde même pas les jeans et les t-shirts. Ce qui sort, c'est « Oh, c'est gloire à Dieu, vous allez bien. Et comment vous allez? C'est bientôt que vous allez partir pour aller en France. » C'est communion. On se repère assez facilement. On se retrouve partout. Mes amis, pour marcher selon l'esprit, il faut entretenir les relations de la famille. Obligatoirement. Et vous savez, cette famille, parfois, c'est comme nos familles naturelles, biologiques. Parfois, c'est compliqué, ces relations. Et même très compliqué. Mais nous avons un devoir d'entretenir ces relations. Il y a des moments qui arrivent où il faut couper les ponts, mais c'est rare. Notre objectif, si notre frère s'éloigne, c'est de le ramener. Vous rappelez ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée? Avec douceur, respect. Entretenir nos relations, respecter la personne en face. Qu'est-ce que nous faisons? Nous voyons ce cinquième élément qu'il faut avoir. Comprendre qui est notre Dieu, c'est celui qui nous sauve. Après, par l'Esprit, nous sommes adoptés et comprendre notre famille chrétienne. Et je saute. J'aurais tellement de choses à dire. En versets 22 à 25, nous voyons un sixième élément qu'il faut avoir. C'est espérer selon l'Esprit. Regardez Romains chapitre 8, versets 22 à 25. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. » Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Qu'est-ce que l'apôtre Paul ici nous dit, pour vivre selon l'Esprit, il faut avoir nos yeux fixés, oui, ici-bas, mais il faut avoir nos fixés vers l'avenir en attendant le jour où nous serons sauvés parfaitement, complètement. Moi, je suis sauvé entièrement. Maintenant, je suis justifié. Je suis sauvé dans le fait que je progresse dans ma sanctification. Mais dans cette idée, je ne suis pas sauvé entièrement parce que la sanctification est un processus qui prend toute la vie et ça ne sera pas achevé tant que je n'arrive pas au ciel. Et j'attends ce jour-là avec espérance, le jour où je laisserai tout cela derrière moi et je soupire tout comme la création. Et je souffre. Et j'attends et je dis, Seigneur, j'attends le jour où je n'aurai plus tout ce bagage que je traîne avec moi, cette ancienne nature, cette chair qui m'embête. J'attends avec impatience d'être libéré de cela. De comprendre que nous n'allons pas aller de mieux en mieux ici-bas, mais nous allons arriver à la perfection là-haut. Oui, il faut progresser, mais la vie, il y a une fin. Mais là-haut, ça sera parfait. Espérer l'accomplissement et attendre l'accomplissement de notre salut parfait là-haut. Comprendre que ce n'est pas que la vie ici-bas. Il y a toute une éternité qui nous attend. Je termine avec celui-ci. La septième clé que nous voyons ici dans ce chapitre, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et j'ai sauté les versets que je voulais lire. Je les ai mal marqués, versets 26 et 27. Pardon. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos cœurs, nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tim a expliqué ce verset d'une façon magnifique hier soir. Si nous voulons vivre selon l'Esprit, il faut prier selon l'Esprit. Ici, on a l'impression que dans ce verset, je ne sais pas comment prier, donc tant pis, je vais prier, Seigneur, agis ici, fais cela, un peu comme Tim a expliqué hier soir, et on laisse l'Esprit Saint accomplir l'œuvre, et Dieu le Père comprendra que nous, les pauvres humains, on ne sait pas comment prier, et l'Esprit prie pour nous, il intercède, et c'est bon. Mais ce n'est pas ça du tout. Ce que ici, ces deux versets enseignent, versets 26 et 27, c'est que il est à nous de prier. Et en fait, le verset, l'Esprit nous aide, c'est l'idée qu'il vient à côté et nous accompagne pour nous aider dans la prière. Et c'est l'idée que je ne sais pas comment prier, il vient à côté pour m'épauler un tout petit peu, pour souffler dans mon oreille comme Tim a dit hier soir. Il me dit comment prier. Ce n'est pas que j'ai cette mentalité. Oh, tant pis, je ne comprends pas, mais l'Esprit prie, il intercède, donc c'est bon. Non, ici l'idée c'est que c'est à nous de travailler, c'est à nous d'écouter l'Esprit pour nous montrer et nous enseigner comment prier. C'est quand la dernière fois que nous avons vraiment prié? On a prié avant le repas. Est-ce qu'on ose appeler ça prier? Oui, c'est prier, c'est rendre grâce. Mais prier à l'idée de vraiment entrer en communion avec Dieu. Entretenir une communication entre deux personnes. Discuter. Je ne suis pas très fort à discuter. Je n'ai pas ce don. Quand je commence à discuter, je fais « Oui, chérie », et le cerveau va dans une autre direction à 100 à l'heure. Et Mélisse commence à discuter et dire « Mais David, qu'est-ce que tu... » Je ne sais pas. On parlait de quoi, là? Juste 2 secondes et l'esprit est parti. C'est un problème chez moi. Mais je crois que c'est un problème assez commun chez nous tous, chrétiens. On vient, on dit, chérie, je parle avec Mélissa, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, c'est bien. Et tu as préparé ma veste et costume pour demain? Oui, ok, très bien. Et la fille va bien? Ok, très bien. Et c'est fait. On a le checklist, hein. Touk, 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 ok, j'ai prié. Seigneur, réponds à ce besoin. Seigneur, accomplis ça. Et Seigneur, je te prie d'encourager. Seigneur, mais parfois, la meilleure chose, c'est de s'arrêter et ne rien dire pour écouter l'Esprit qui vient pour souffler dans notre oreille, dans notre cœur intérieur. Prie comme ça, David. Prie selon la volonté de Dieu dans ce domaine. Et voici la volonté de Dieu. Je vais dire ceci. Je crois une raison principale pour laquelle nos églises n'avancent pas et souffrent. On a nos réunions de prière, mais nous ne prions pas. Et nous disons, nous cherchons la face de Dieu, mais on ne prend pas le temps pour le faire. Quel est le mal de passer 30 minutes, une heure, plus dans la prière, 2 heures? Nous avons eu une réunion de prière des hommes à l'église. Chez nous, il n'y a que des jeunes convertis. Je n'ai pas la bénédiction ou autre chose d'avoir des chrétiens mûrs dans la foi. C'est que des jeunes. Vous savez, il y a 2-3 semaines de cela, on a eu cette réunion de prière d'hommes, samedi matin. Ça m'a étonné. C'était la première fois que la plupart de ces hommes se sont réunis seuls entre hommes pour prier. Et les réflexes naturels d'un enfant de Dieu, de prier quand on est jeune dans la foi, pour écouter la voix du Seigneur. On a fait le tour, nous 5, et on n'a même pas vu l'heure passer. Et vous savez, il y avait des moments de silence. Ça m'a étonné. Je ne m'attendais pas à ces hommes d'avoir assez de patience pour dire « Mon Père Saint-Prix, bon, c'est fini, on y va. » Ça a recommencé. On dit que c'est dans la lecture de la parole que Dieu nous parle et c'est dans la prière que nous parlons à Dieu. Ah, je suis désolé. Dans la lecture, oui, Dieu nous parle, mais dans la prière, Dieu nous parle aussi. Dieu nous parle, mais il faut s'arrêter pour l'écouter. Alors, mes amis, la vie selon l'Esprit, ce n'est pas facile. C'est beaucoup de travail. Et vous savez, pour gagner ces matchs de basket, je ne vous dis pas combien d'heures on s'est entraîné. Et le coach, l'entraîneur, il n'avait même pas besoin de nous demander de venir. On était même là avant l'heure fixée par l'entraîneur. On jouait ensemble, on s'entraînait ensemble, même avant que l'entraîneur arrivait, parce qu'on était passionnés et on voulait gagner le championnat. Moi, je veux vivre la victoire dans la vie chrétienne. Et c'est possible. Tout comme il faut apprendre à manipuler le ballon dans le basket, tout comme il faut apprendre à tirer, à faire des paniers, tout comme il faut apprendre comment défendre quelqu'un d'autre qui a un ballon, il faut apprendre comment marcher avec le Seigneur. Ma fille, quand elle a commencé à marcher il y a moins d'un an de cela, elle marchait et elle tombait après 2 pas. Et maintenant, elle court et c'est impressionnant. Et même en courant, elle tombe. Toujours. On va tomber, mais la clé, c'est de se relever, se redresser et se mettre au travail encore et continuer à travailler et travailler et travailler. Et on peut avoir la victoire. Ne voulez-vous pas avoir la la victoire ce soir. La vie selon l'esprit. À la fin de la saison, on remplissait un présentoir un peu comme celui-là avec des trophées. Moi, j'attends le jour où mon Seigneur me donnera des couronnes et pas pour les mettre sur ma tête et me promener comme un coq tout fier. Mais j'attends le jour où je recevrai ces couronnes et je vais pouvoir les jeter aux pieds de mon Sauveur pour l'adorer et dire « Moi, je ne suis pas digne, tu es digne, Seigneur. » Et la seule façon que je vais pouvoir faire cela, c'est si je m'applique à ceci. Marcher, affectionner, faire mourir les actions du corps, être conduit, comprendre notre famille spirituelle, espérer pour notre rédemption et prier selon l'Esprit. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes tellement faibles. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Mais avec toi, Seigneur, nous avons la victoire. C'est déjà acquis. Mais c'est à nous de se décider, de se lever et commencer à s'entraîner, à marcher, à vivre selon l'Esprit. Accomplis ton œuvre, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Béni sois-tu aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.